Merci beaucoup pour ce parcours. Merci pour ces réalités auxquelles nous avons pu vibrer, nous rappeler vraiment tout ce que nous avons dans le Seigneur. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de sa parole et nous continuons le cheminement que nous faisons avec Abraham depuis de longues semaines. Et nous allons lire dans Genèse au chapitre 20, un texte qui nous donnera une impression de déjà-vu, puisque nous retrouvons Abraham dans une situation qu'il a pratiquement déjà vécue à l'identique, mais c'était 20 ans auparavant. Genèse chapitre 20. Abraham partit de l'endroit où il se trouvait pour le pays du Négev. Il établit entre Kadesh et Shur, puis séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimélec dans un rêve nocturne et lui dit, « Tu es un homme mort à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste ? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre, des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien moi aussi que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi pour que tu nous aies amené mon royaume et moi à connaître un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Puis Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu donc pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, « Fais-moi la faveur dans tous les endroits où nous irons de dire que je suis ton frère. » Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs, des servantes, les donna à Abraham. Il rendit aussi sa femme Sarah. Abimélec dit, « Voici mon pays est devant toi, habite où il te plaira. » Il dit à Sarah, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. » Ainsi ton honneur sera sauf. » Abraham pria Dieu, guérit Abimélec, sa femme, ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Jusqu'ici, notre lecture. Comment se fait la trajectoire de notre vie ? Il fut un temps où l'avenir des personnes semblait quasi écrit à la naissance, déterminé par leur milieu familial. L'individualisme moderne a changé la donne et offert à chacun la possibilité de se construire lui-même et d'écrire sa propre trajectoire. Pour envisager ces trajectoires, on sait que tant qu'a soufflé le vent du progrès, on rêvait de trajectoires en ligne droite et toujours vers le haut, vers le progrès. Aujourd'hui, on a bien plus fort le sentiment d'être plafonné souvent, de devoir construire des trajectoires heurtées avec de multiples recommencements plutôt que sur une ligne unique et toujours ascendante. Voilà pour la trajectoire générale de notre vie. Qu'en est-il de la trajectoire de notre vie intérieure ? On aimerait qu'elle, au moins, soit bien régulière, en croissance constante. On aimerait qu'une expérience faite devienne une expérience acquise. c'est oublier que l'apprentissage se fait souvent par couches où il faut reprendre les mêmes choses une fois, deux fois, trois fois. On aimerait aussi grandir de progrès en progrès, un pas après l'autre, régulièrement, comme un montagnard qui avance pas à pas vers le but qu'il s'est fixé. Mais on ressemble plutôt à ces gamins dans les promenades, dans les marches familiales, qui s'arrêtent à tout bout de champ au désespoir de leurs parents, pour une fleur, pour un papillon, pour un caillou dans la chaussure, et qui sont prêts à filer en courant pour, dès qu'un chemin descend vers le bas, plutôt que de continuer à monter. On est un peu comme cela. On aimerait que la courbe de notre vie soit régulière et stable, mais souvent, il faut le constater, elle ressemble bien plus à un parcours en dents de scie. Nous suivons la trajectoire d'Abraham. Nous sommes arrivés plusieurs fois déjà à des sommets. Abraham est un homme de foi qui force le respect. Nous l'avons vu intercéder pour Sodome, pour son neveu Lot, avec beaucoup de grandeur d'âme. La naissance de son fils est pour bientôt, nous le savons. On s'attend aux plus belles choses maintenant. Et que découvre-t-on ? Un nouvel épisode où Abraham s'embourbe dans une histoire de mensonges. Une séquence pitoyable où il répète les mêmes erreurs qu'il avait commises 20 ans auparavant en Égypte, quand pareillement il avait dit que Sarah était sa sœur. Quelle est dure la chute ! Qu'il est étonnant de voir l'histoire d'Abraham bégayer de la sorte. Alors certains pensent qu'en fait, cette histoire pitoyable ne s'est passée qu'une fois dans la vie d'Abraham. Elle aurait été mémorisée de deux façons différentes, ce qui aurait donné, dans le récit final, deux récits. Mais il n'y aurait eu qu'un événement, en fait. Les différences, pourtant, sont très réelles entre le récit de ce qui s'est passé en Égypte et ce qui s'est passé ici avec Abimélec. Et surtout, penser ainsi, c'est présupposer d'une certaine façon qu'on ne fait qu'une seule fois la même erreur. Ce récit, où l'on retrouve une deuxième fois Abraham se laisser aller au mensonge pour sauver sa peau, nous parle de cet aspect beaucoup moins glorieux de notre vie, où nous répétons les mêmes erreurs, où nous retombons dans les mêmes travers, où nous commettons les mêmes péchés. Ce sont des expériences parmi les plus difficiles de la vie d'un chrétien. On a l'impression de démériter complètement. On ne sait plus comment se relever. Et cela, malheureusement, ce n'est pas juste de la littérature. Ce n'est pas juste dans les textes que ça se passe. C'est dans la vie, dans notre histoire. Résumons la situation. Abraham reprend ses marches après être resté un long moment près d'Hébron, dans les collines de Judée. Ça nous rappelle l'une des conditions de sa trajectoire. Il était étranger et voyageur dans le pays où Dieu l'avait conduit. Il attendait encore une situation de stabilité. Il ne s'installait que pour un temps là où il se trouvait. Et à chaque fois, il devait composer avec les habitants de la région où il se trouvait. Lorsqu'il se déplaçait, lorsqu'il s'installait, c'était toute une affaire. Un clan entier, des centaines de personnes, des milliers de moutons qui arrivaient là. Tout le monde devait trouver sa place. Tout le monde devait se nourrir, travailler, être accepté, être accueilli. C'était cela, la trajectoire d'Abraham. Je pense utile de rappeler qu'Abraham, notre père, s'est trouvé dans cette situation d'étranger devant être accueilli. En tant que fils et filles d'Abraham, nous ne pouvons pas l'oublier, même des siècles plus tard. Et ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit de céder aux caricatures de l'étranger qui serait par définition une menace ou qui serait par définition la source de tous les problèmes. Abraham, notre père, en la foi, a été étranger. Il a dû être accueilli. Il a été de ces étrangers qui ont contribué à enrichir le pays où il était. De ces étrangers qui ont été même une bénédiction pour le pays qui les accueillait. Et cette image fait partie du modèle de la Bible lorsqu'elle parle de l'étranger. La Bible nous invite à considérer l'étranger comme un frère, comme notre prochain, quelqu'un à accueillir, à considérer, à qui on peut donner, de qui on peut recevoir. Jésus a même fait de l'étranger un modèle du prochain qui fait du bien aux autres, avec la parabole bien connue du bon samaritain. Abraham, notre père, a été étranger. Son parcours de vie était cela, ne l'oublions pas, ayons les attitudes qui correspondent à cela. Mais il semble bien que pour Abraham, devoir s'implanter dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, était source de peur et d'angoisse très profonde. L'une des angoisses qui étaient les siennes était qu'un souverain local puisse vouloir prendre Sarah pour femme. Et nous découvrons dans ce récit que cette peur l'avait habité depuis toujours. Depuis toujours, il avait craint qu'on ne le tue pour prendre Sarah, qui était fort belle. Comme Sarah était sa demi-sœur, fils du même père mais d'une autre femme, Abraham avait convenu avec elle. Au moment où il avait quitté son pays sur l'ordre de Dieu, il avait convenu qu'il se déclarerait frère et sœur lorsqu'il passerait dans un pays étranger. Verset 13, « Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, fais-moi la faveur dans tous les endroits où nous irons de dire que je suis ton frère. » Nous ne savons pas combien de fois il a utilisé ce stratagème. Il est possible qu'avant d'arriver en Canaan, il s'était préparé à le faire sans en avoir besoin, peut-être, dans les autres pays qu'ils avaient traversés, ou qu'il l'ait fait quand on leur posait des questions, mais sans que ça aille plus loin. En Égypte, pourtant, 20 ans plus tôt, les choses étaient allées très loin. Sarah avait été prise dans le harem de Pharaon, et Dieu avait dû intervenir, montrer sa puissance, sa protection. Mais cela avait été la honte d'Abraham, qui était passé complètement à côté de son rôle de témoin du Dieu vivant là-bas en Égypte. Il n'avait pas su faire confiance en Dieu, il avait trahi la vérité, il avait trahi la droiture que Dieu demande à ceux qui croient en lui et que l'on peut mettre en œuvre justement parce qu'on fait confiance en Dieu. Cette expérience de l'Égypte avait laissé une double trace, honte extrême, parce qu'il s'était fait vraiment sermonner, même par le Pharaon, nous l'avions vu, et reconnaissance envers Dieu, malgré la honte extrême. Et quand on vit quelque chose comme cela, on se dit, c'est bon, j'ai compris, je ne ferai plus jamais ça, c'est sûr. Mais 20 ans plus tard, quand il se retrouve à nouveau en pays étranger, toutes les peurs remontent. Oubliez la protection de Dieu en Égypte. Oubliez aussi la honte d'avoir été si pitoyable en Égypte, un si pitoyable témoin de Dieu. Oubliez encore la terrible lâcheté d'avoir exposé Sarah pour se protéger lui. Oubliez enfin la promesse qu'il avait certainement dû se faire, plus jamais ça. Nous ne pouvons pas regarder Abraham de haut lorsque nous considérons ce récit. Réfléchissons un peu à nous-mêmes. N'avons-nous pas dit un jour, plus jamais ça, je ne recommencerai jamais, pour retomber ensuite dans le même travers, malgré ce que nous disions si fort et ce que nous pensions si sincèrement? Nous ne pouvons pas regarder Abraham de haut. Et lorsque nous lisons Genèse 20, après Genèse 13 qui parle de l'Égypte, cette triste impression de déjà-vu à propos de Sarah est un miroir des déjà-vus, des trop souvent vus, qui jalonnent notre propre trajectoire. Où est le problème lorsqu'on répète les mêmes erreurs d'une fois sur l'autre? Il y a bien sûr la faiblesse. C'est parfois si facile de se laisser à la tentation, et de se dire, oh, on verra plus tard ce que ça donnera. Mais ce qui me frappe ici, c'est que Abraham raconte 20 ans après l'Égypte la même histoire qu'au tout début, quand il était parti, avant de faire l'expérience de l'Égypte. Il reprend la même règle qu'il s'était donnée avant l'expérience de l'Égypte. Et il reprend cette règle qui avait fait la preuve qu'elle ne tenait pas la route. C'est comme si rien ne s'était passé depuis qu'il avait quitté son pays d'origine. C'est comme si l'expérience de l'Égypte ne s'était pas passée. Abraham n'a pas tiré vraiment les leçons de son mensonge en Égypte lorsqu'il avait fait passer Sarah comme sa sœur. Il y avait pourtant des leçons à engranger de cette expérience, du positif comme du négatif. Le positif, c'est que Dieu les avait gardés, protégés, malgré les peurs qui étaient celles d'Abraham. Et ça, c'était un appel à la confiance pour la foi suivante. En s'approchant de Guérar, le royaume d'Abimélec, Abraham aurait dû se rappeler ce qui s'était passé, aurait dû se rappeler que, oui, j'ai peut-être peur, mais le Seigneur s'est déjà manifesté comme un Dieu de délivrance qui ne nous abandonne pas dans ces situations difficiles. Il aurait dû s'armer de cette pensée, se dire, Seigneur, l'autre fois j'ai manqué de confiance en toi, l'autre fois j'ai menti, tu t'es montré toi digne de confiance, tu m'as pardonné, alors cette fois-ci je veux te faire confiance, faire mieux pour être à la hauteur, donne-moi ton aide, soutiens-moi. Se dire cela avant, en s'approchant de la situation sensible. Nous avons besoin nous aussi de nous armer de ce que nous avons déjà vécu pour faire face à des situations où nous risquons de retomber, où nous connaissons nos faiblesses, où nous connaissons nos peurs. Ce que nous avons vécu, cela peut être une délivrance, mais cela peut être aussi un avertissement. Parfois, le Seigneur permet que nous passions tout près de la limite, et c'est un avertissement qu'il nous donne. Il ne faut pas se dire, alors, tout va bien, je m'en suis sorti. Il nous faut recevoir alors cela vraiment comme un avertissement à écouter. Celui qui se souvient des avertissements, dit le proverbe de la Bible, prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 10, verset 17. Dieu les avait gardés, il fallait s'en souvenir. Dieu avait donné un avertissement, la limite presque suite à ce mensonge, il fallait s'en souvenir. Mais ce souvenir de l'expérience de l'Égypte, c'était aussi, me semble-t-il, se rappeler peut-être des choses plus négatives. Abraham avait été pitoyable en Égypte. Il avait manqué à son devoir de témoin. Lui, le croyant, s'était fait sermonner par Pharaon, l'incroyant. Ce genre de choses aussi, il nous faut nous en souvenir lorsque cela nous arrive, même si nous savons que Dieu nous a pardonné. Comment et pourquoi s'en souvenir? Pour en faire notre prière. Seigneur, je ne veux pas que cela se reproduise. Seigneur, je ne veux plus te faire cela. Et ça vaut la peine de se souvenir des moments où on a démérité, où on n'a pas été très brillant, justement pour en faire une arme et demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, que cela ne se reproduise pas. Il faut nous en souvenir pour armer notre volonté, pour armer notre détermination. Je voudrais tellement faire la preuve qu'avec l'aide de Dieu, je peux faire autrement, je peux faire mieux. Mais je ne veux pas avoir la honte une fois de plus. Est-ce que ça vous arrive de vous dire cela? C'est aussi quelque chose sur lequel, me semble-t-il, il nous faut réfléchir de temps en temps. Nous avons la grâce du pardon qui permet que la relation entre Dieu et nous soit rétablie lorsque nous avons fait des fautes. C'est magnifique, c'est très beau. Et fort de ce pardon qui nous est donné, il nous faut aussi garder la mémoire de certaines choses pour pouvoir, avec l'aide de Dieu, avancer et ne pas répéter les mêmes choses. Ce texte a été laissé comme un miroir pour nous inviter à la vigilance, à la détermination, à la prière face à nos faiblesses. Mais il faut pour cela que les expériences négatives que nous faisons, que les avertissements que nous recevons, que toutes ces choses cheminent en nous, qu'elles nous fassent réfléchir, qu'elles nous fassent vouloir changer, qu'elles nous fassent prier pour que nous soyons changés, qu'elle nous rende plus vigilants, qu'elle nous rende plus attentifs. Qu'on ne passe pas juste d'une chose à une autre, mais qu'on sache se saisir de ce que nous avons vécu pour avancer mieux. Voici pour le schéma global de la situation qu'Abraham connaît. Mais ce texte est aussi d'une grande actualité, me semble-t-il, pour tous ceux qui penseraient peut-être que dans la société où nous vivons, on ne peut pas s'en sortir sans quelques petits mensonges. Parce que c'est aussi ce qu'Abraham est en train de faire ici. C'est la règle. Tout le monde le fait. Le monde est trop mauvais. On se fait manger si on ne biaise pas un peu ici ou là. Écoutons plus précisément le raisonnement d'Abraham par rapport à cette question plus précise du mensonge. Verset 11. « Je me disais, il n'y a certainement aucune crainte de Dieu en cet endroit. » Autrement dit, ils sont trop mauvais. On ne peut pas s'en sortir en restant honnête avec des gens si mauvais. Mon patron est tellement exigeant, tellement sans pitié qu'il faut de temps en temps un petit mensonge pour éviter l'orage. Ma femme m'en voudra tellement si j'ai encore oublié ce qu'elle m'a demandé de faire que je dois inventer une histoire pour la paix des ménages. L'administration est tellement pénible qu'une fausse déclaration évitera toutes sortes d'ennuis. Et d'ailleurs, ceux qui le font s'en sortent bien et bien mieux que ceux qui sont honnêtes. Ce qui est triste dans ce raisonnement, c'est qu'on n'essaye même pas de mettre la crainte de Dieu là où on reproche qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de crainte de Dieu, ben on s'ajuste à la situation, plutôt que de se dire peut-être qu'on pourrait faire la preuve de ce qu'apporte la crainte de Dieu dans cette situation-là. On nivelle tout par le bas, plutôt que d'essayer de sortir par le haut. Deuxième étape du raisonnement, verset 11. « Si je dis qu'elle est ma femme, ils me tueront à cause d'elle. » Autrement dit, si je suis honnête, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Abraham imagine ici les risques de l'honnêteté. Je vais devoir payer très cher si je suis honnête. Ce qui est très étonnant, très significatif, c'est qu'à aucun moment, il n'imagine les risques de son mensonge. Ça, il ne pense pas du tout. Le mensonge semble tellement une solution facile qui arrange tout vite fait, à merveille, comme on sort une solution d'un chapeau de magicien. Mais le mensonge a pourtant ses risques. Le mensonge a pourtant ses dangers. Il y a des conséquences ici pour Abraham, mais le danger et le risque principal pour nous chrétiens du mensonge, c'est qu'il nous coupe du soutien de Dieu. C'est qu'il nous coupe de l'aide de Dieu. Abraham, dans son mensonge, ne bénéficie plus de l'aide de Dieu. Abraham, dans son mensonge, est tout seul avec ses combines. Et c'est pour ça que Sarah se fait prendre. Il ne faut pas chercher ailleurs la raison. Abraham, chez Abimélec, parce qu'il a choisi la voie du mensonge, est désormais un homme seul, un homme sans le secours de Dieu. Il est seul avec ses combines, il paye le prix de ses combines. Et me semble souvent que lorsque un chrétien entre dans le mensonge, en fait, ça marche encore moins bien pour lui que pour les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté assez souvent. Et je pense que c'est une façon dont Dieu veut nous dire que ce n'est pas une voie pour nous. Autrement dit, ce n'est même pas la peine de demander à Dieu de t'aider ou de te bénir si tu t'engages dans une voie de mensonge. Ce n'est même pas la peine de prier pour ta situation si tu t'engages dans une voie de mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Son soutien, il le donne à ses enfants s'ils restent intègres, s'ils lui font confiance en marchant dans la vérité. Face à la tentation du mensonge avec ses facilités, sous quelque forme que ce soit, nous devons bien nous dire une chose. Dès que nous engageons dans cette voie, nous écartons le Seigneur de cette voie. Pas la peine de prier que Dieu nous aide. L'aide de Dieu ne viendra qu'avec la vérité et pour la vérité. C'est ce qui se passe ici. Le Seigneur lance une opération vérité. Il lance une opération vérité en suscitant un rêve à Abimélec, un rêve qui révèle toute l'affaire. Et c'est vérité pour tout le monde, pour tout le monde, pour Abimélec comme pour Abraham. Pour Abimélec, tu es un homme mort à cause de la femme que tu as envoyée, que tu as enlevée, car elle est mariée. Voilà le regard de Dieu sur l'infidélité. Mais la vérité éclate aussi de l'autre côté. Abraham a menti. Sarah n'est pas juste sa sœur, elle est sa femme. Et Abimélec peut se défendre. Il peut dire, mais les deux m'ont menti, chacun affirmait qu'ils étaient frères et sœurs. Et Dieu le reconnaît. Dieu dit, oui, je sais bien que tu avais un cœur intègre. Alors, intègre, ça s'entend, hein, juste sur le plan, en le point précis, de dire qu'il n'a pas cherché à prendre une femme mariée. C'est à ce niveau-là qu'il était intègre. Le fait de convoiter, de prendre, c'est une autre affaire. Dieu montre qu'il est ici un Dieu de vérité. Il n'accuse pas Abimélec plus qu'il ne faut, mais il ne couvre pas Abraham non plus. Même si Abraham est son enfant, même si Abraham est le père des croyants. Le Seigneur ici fait la grâce à Abraham et à Sarah de les sortir de la situation où ils se sont mis, mais il ne leur fait pas grâce de leur mensonge. Ce mensonge est mis à la lumière. Comme je l'ai dit, l'aide de Dieu ne vient qu'avec la vérité, ne vient que pour la vérité. Mais l'opération vérité du Seigneur va un peu plus loin encore. Abimélec et les gens de son pays ont été frappés de stérilité. Et plutôt que d'annoncer à Abimélec que le Seigneur, malgré tout, va les guérir, Dieu, dans le rêve qu'il adresse à Abimélec, dit à Abimélec qu'Abraham est un prophète et qu'Abraham va prier pour lui. Cet homme est prophète, il priera pour toi, c'est dit au verset 7. Très étrange. Pourquoi le Seigneur place-t-il Abraham dans ce rôle de prophète ? Il est prophète, ça veut dire qu'il parle de la part de Dieu, il apporte la vérité sur Dieu, il exprime aussi la bienveillance de Dieu en intercédant pour les autres. La première fois que ce mot est employé dans la Bible, et dans quelles circonstances, à propos de quelqu'un qui vient de mentir pitoyablement, le prophète est ici un bien triste prophète, il faut le reconnaître. Comment comprendre cette façon dont Dieu agit ? Il aurait quand même pu guérir Abimélec sans passer par Abraham, hein, c'était évident. Pourquoi ? À mon avis, il faut faire une double lecture de cette affirmation. Elle dit d'abord, me semble-t-il, que la vérité de Dieu est plus grande que nos petits mensonges et qu'elle demeure malgré nos manquements. Abraham a foi dans le Dieu unique, dans le seul Seigneur, contrairement à tous ceux qui l'entourent, qui croient en une multitude de divinités. En cela, il dit vrai. En cela, il doit être écouté. Il doit être écouté pour ce qu'il dit sur Dieu. Et Dieu veut se servir de lui pour faire du bien à ceux qui l'entourent et qui ont besoin d'entendre le message dont il est le porteur. Le mensonge d'Abraham et de Sarah ne change pas la vérité sur Dieu dont Abraham est le porteur. Et je dirais qu'en disant « Abraham est prophète », Dieu s'atteste lui-même. Et ça nous rappelle que le message que nous portons, nous aussi, en tant que chrétiens, est plus grand que nous. Il est plus grand que nous, il demeure. C'est la première lecture, me semble-t-il, à faire de ce récit Abraham, oui, dit vrai dans ce qu'il croit sur Dieu, la vérité de Dieu demeure. Mais il me semble qu'il faut faire aussi une seconde lecture, plus au niveau psychologique, là où Dieu place Abraham. Dieu place Abraham, me semble-t-il, dans une situation qui fait éclater le décalage total entre ce qu'il devrait être et ce dans quoi il s'est fourré par son mensonge. Il est prophète, oui, mais le pauvre, il doit avouer publiquement son mensonge, honnêtement. Il prie pour Abimélec, mais il sait très bien que c'est en grande partie à cause de son mensonge à lui qu'Abimélec est là et qu'il a besoin qu'on prie pour lui. C'est pas évident, c'est humiliant cela. Qui doit prier pour qui? On peut presque se le demander. Abraham, en tout cas, ne peut pas faire le fier. Abraham ne peut pas prier pour Abimélec sans d'abord reconnaître sa propre faute, ses propres manquements, son propre manque de crainte de Dieu. Lui, le porte-parole du Seigneur, là où il disait, il n'y a pas de crainte du Seigneur. Cette histoire, donc, n'est pas une histoire qui finit bien pour Abraham, par une sorte de réhabilitation que le Seigneur lui donnerait en couvrant tout comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas du tout cela. Le Seigneur met Abraham dans une situation difficile, exigeante. Il est confronté à la vérité de ce qu'il est par rapport à ce qu'il aurait dû être. Il doit tenir son rôle de prophète en ayant quand même un peu honte de lui-même. Abraham, qui avait magnifiquement intercédé pour Sodome, n'est plus du tout Abraham le Magnifique lorsqu'il doit prier pour Abimélec. Et Dieu l'a voulu ainsi. Ce texte nous est laissé, me semble-t-il, comme avertissement, comme texte qui est là pour nous faire réfléchir vraiment. Un exemple qui doit nous saisir. En voyant Abraham, le prophète du Seigneur, en si mauvaise posture au moment de prier pour Abimélec, on voyait Abraham également couvert de biens par Abimélec qui essaye de rattraper la situation comme il peut. Ce texte veut nous faire honte. Veut nous faire honte pour toutes les fois où nous sommes de si mauvais témoins de Dieu. Mais c'est une honte salutaire. C'est une honte salutaire. Elle nous dit que Dieu continue de nous aimer, qu'il veut nous utiliser malgré nos lacunes, mais il veut la vérité au fond de notre cœur. Et s'il nous fait honte en nous avertissant par sa parole quand nous lisons ce texte, c'est parce qu'il veut produire en nous des résolutions fermes à vivre de manière plus droite, de manière plus conséquente, avec son aide, avec la grâce qu'il veut nous renouveler. Ces choses nous sont arrivées, nous sont dites afin de nous servir d'exemple. Et si Dieu a voulu ces choses pour Abraham, il pensait probablement aussi à tous les fils et filles d'Abraham qui auraient besoin eux aussi de la même grâce et des mêmes dispositions, des mêmes résolutions également à prendre pour que Dieu nous aide les uns les autres à vivre d'une manière plus cohérente. Voilà, me semble-t-il, ce que ce texte nous enseigne et pourquoi le Seigneur permet toutes ces choses. En contrepoint de cette intercession un peu pitoyable d'Abraham pour Abimélec, j'aimerais que nous pensions à une autre intercession. C'est l'intercession du Seigneur Jésus. Lorsqu'il intercède pour nous, lorsqu'il fait valoir en notre faveur tout ce qu'il nous a acquis pour notre salut. Jésus, lorsqu'il intercède pour nous, peut le faire en ayant vécu notre vie d'homme d'une manière parfaite, sans broncher, sans céder à rien de mauvais, malgré de fortes et de vraies tentations aussi. Quelle confiance cela nous donne que de penser que le Seigneur qui intercède pour nous peut le faire avec cette intégrité-là. Quelle belle trajectoire que celle du Seigneur Jésus. Quelle force également dans une vie de constance, de cohérence, de vérité, comme a été celle du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, en pensant aux chrétiens, disait « Je ne cesse d'être en souffrance pour vous, dit-il en substance, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est aussi le but de l'action de Dieu que de former Christ en nous. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu qui agit dans notre vie, qui nous transforme, est appelé l'Esprit du Christ. Christ formé en nous. Il y en a du travail. Il y en a des reprises, des recommencements, et moi qui vous parle, c'est vrai pour moi en tout premier. Il y a du travail, il y a des reprises, il y a des recommencements. Mais envers et contre tout, est-ce dans cette direction-là que s'orientera notre vie? Est-ce dans cette direction-là que nous voulons la voir avancer? Est-ce dans cette direction-là que se construit la trajectoire de notre vie? Christ formé en nous. Amen.